t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Le 16 octobre de chaque année, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture célèbre la Journée Mondiale de l'Alimentation. Dans un rapport publié en 2015, les experts indiquent que 70 à 75% de la population congolaise se trouve en insécurité alimentaire chronique. Le même rapport souligne aussi que la RDC compte parmi ses habitants 6,4 millions en situation de crise et d'urgence alimentaire. Deux ans après, quelle est la situation de l'insécurité alimentaire dans votre milieu? Rejoignez-nous au 081 890 4969 09 97 06 4969 pour vos interventions en direct. Vous pouvez aussi rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Nico Kalamba y réalise ses magazines mis en onde par Polydor Basunga et Pierrot Elameji vous le présente sous la supervision de Martin Seboujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elameji.
Rappelons que dans un nouveau rapport publié, c'était le 14 août dernier par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, le Programme Alimentaire Mondial, les deux organisations tirent la sonnette d'alarme en RDC. Près de 7,7 millions de personnes sont confrontées à des souffrances extrêmes liées à la faim. Face à la hausse des actes de violence et des déplacements des populations, soit 30% de plus que l'année dernière. Quelle est la situation de l'insécurité alimentaire dans votre milieu? Comment on peut arriver à faire face à tout cela? C'est la question au centre de notre échange. Rappelons qu'entre juin 2016 et juin 2017, le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire d'urgence et des crises est passé de 1,8 million des personnes passant des 7,9 millions à des 5,9 millions à 7,7 millions de personnes. La situation de l'insécurité alimentaire, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, comment faire face à cela? Nous faisons les points avec vous, professeur Ignace Ndala. Merci de nous avoir appelé. Vous êtes à Kolwezi dans la province de Lualaba. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour et merci pour l'invitation et la parole. Je crois qu'il est clair que quand on analyse de plus près la situation alimentaire, nous avons un très grand retard. Ce grand retard, c'est que nous sommes d'abord dans le contexte des conflits qui frappent ce pays, parce que les anciennes provinces qui étaient considérées comme des greniers, je pense en l'occurrence au Kasaï et à toutes les autres provinces de l'Est, sont celles qui sont aujourd'hui affectées par les guerres. Ça, c'est le premier aspect. Mais je souligne aussi un autre aspect d'ordre général de notre management politique, que la politique générale en matière d'agriculture jusque-là n'a pas réussi. Nous n'avons pas donc réussi à créer, n'est-ce pas, des zones de production agricole qui pouvaient permettre de résorber le besoin, la carence alimentaire dans notre pays. Je vais donner l'exemple de notre province ici dans le Lualaba. À un certain moment, vous allez remarquer que les Lualabais consomment pour la plupart le maïs qui vient de l'étranger. Ce qui a suffi seulement que la Zambie ait fermé ses frontières et la carence en maïs a fait souffrir plus d'une personne ici. Ce que nous sommes en train d'importer, ce que nous pouvions nous-mêmes produire parce que la politique agricole n'a pas réussi. On n'a pas réussi, comme je le disais tantôt, à créer des unités de production. Il y a eu le projet Bukangalonzo par exemple. Il aurait fallu que dans chaque province, on ait ce genre d'initiatives et d'activités pour résorber la crise. Tenez que je donne un exemple. Vous allez comprendre que ici, pendant que nous avons des vallées où coulent des ruisseaux et une saison de pluie plus ou moins large, mais nous sommes en train d'importer pommes de terre, maïs, arachides, canne à sucre et j'en passe, de la Zambie. Vous voyez par exemple, ça pose déjà des problèmes. De la même manière que les entreprises minières sont développées ici, elles faisaient comme le faisait par exemple la Gécamines, pour parler de notre province, la Gécamines, qui avait une filiale qui s'occupait uniquement de l'agriculture.
Alors, professeur Ignace, quand vous dites que la politique a fait défaut, est-ce que c'est un problème de priorité aujourd'hui? Est-ce que la question elle est prioritaire pour les différents gouvernements qui se succèdent? Est-ce qu'il y a une question de négligence? Il y a une question de semblant? Pourquoi ne peut-être pas dire d'ignorance? Qu'est-ce qui se passe au juste alors qu'on sait que le Congo a autant
problème,
de
Il y a un
de
problème
terre,
de priorité, sans vous interrompre, il y a un problème de priorité. Nous sommes devenus pratiquement un pays tributaire de l'exploitation minière alors que nous pouvions faire fi de l'exploitation minière et parler comme du temps de Mobutu. Malheureusement, ce n'était qu'un slogan. Agriculture, priorité des priorités. Ce slogan-là a continué, mais sur le plan pratique, on n'encourage pas. Regardez l'état des routes et des dessertes agricoles. Regardez l'état des rails aujourd'hui. Et aussi, l'État, quand il essaie de s'intéresser à l'agriculture, on se limite à 10-20 ans sans qu'il y ait des gens qui suivent au niveau local et dans les lieux ruraux, les agronomes, pour surveiller, suivre comment les travaux doivent être effectués. Regardez.
Voilà, merci beaucoup, prof Ignace. Là, on a des petits soucis. Votre ligne s'est détériorée. Nous vous disons merci de nous avoir appelé des colisies dans les lois là-bas. C'est une question prioritaire. Aujourd'hui, c'est pas de la priorité, alors que le Congo fait face à un problème très sérieux d'insécurité alimentaire. Il serait mieux que ça soit considéré par les pouvoirs publics comme une priorité. Merci beaucoup, professeur. On retourne ici à Kinshasa avec vous. Félicien, merci de nous avoir contacté. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quand on regarde l'histoire de notre pays, qu'on parle de l'insécurité alimentaire aujourd'hui, quand même la RDC a inscrit son nom dans l'histoire des productions agricoles. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui que nous puissions arriver à concrétiser ce qui a été déjà fait l'autre fois quand même dans ces pays et qu'on ne parle pas de l'insécurité alimentaire dans un pays qui a autant de millions de kilomètres de terres arables?
Vous pouvez comprendre, Pierrot, que ce pays a été plusieurs fois cité à l'époque de la colonisation comme premier producteur de tel et tel, deuxième de tel et tel, troisième de tel et tel. C'était pas les minerais qu'on exportait. Et c'était plutôt des produits agricoles, les cafés, les cacaos, l'arachide, les caoutchoucs, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, l'exploitation aujourd'hui dans ce pays, c'est 0%. Et pourtant, là, nous avions l'étranger qui était chez nous, qui pouvait bien nous diriger vers l'extérieur pour nous approvisionner chez eux, même en denrées alimentaires. Mais il nous a appris à cultiver et à chercher l'autosuffisance chez nous. Mais quand nous-mêmes, nous venons aux affaires, nous changeons, nous disons non, nous devons importer tout, alors nous devons importer. Donc c'est ça, les hommes qui nous gouvernent, qui n'ont aucune vision, ils viennent juste pour chercher à s'enrichir, et c'est comme ça qu'ils se dirigent beaucoup plus du côté des minerais, parce que c'est plus facile. Ils veulent à tout prix épuiser les minerais, parce que les minerais ça s'épuise, mais l'agriculture... Les sols seront toujours là.
Oui, mais Félicien, quand on regarde un peu la situation, le nombre des kilomètres que nous avons de terres arables, l'initiative des projets, alors de quelle manière aujourd'hui le pouvoir public peut-il s'organiser pour arriver quand même à faire face à cette situation d'insécurité alimentaire?
Mais c'est un problème de politique agricole, des problèmes de la volonté de ceux qui nous dirigent, mais ils ne veulent pas. Mais il n'y a pas un miracle à faire. Il suffit seulement qu'ils puissent mettre l'accent sur l'agriculture et ça va partir d'un camp. Il n'y a pas un problème de ce côté-là. Mais ils ne veulent pas. Ils n'ont pas besoin de donner la nourriture à leur peuple. Et c'est pour cela qu'il y a des problèmes à gauche, des problèmes à droite. Et même dans cette agriculture où les gens sont en train de se débrouiller. Comment voulez-vous que ceux qui sont en l'est pour ce qui t'y va avec toute cette insécurité-là, les gens ne peuvent pas aller dans leurs champs. Et comment voulez-vous même si la population elle-même se débrouille de façon manuelle à faire de l'agriculture, il n'y a pas de route de cette agricole. Mais tout est la politique du gouvernement, de tous les gouvernements qui se succèdent, c'est dans les grands centres, c'est dans les villes. où il y a un peu de vie. Mais allez à l'intérieur, vous allez voir que les gens sont oubliés, les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Mais comment pensez-vous qu'il n'y ait pas de la malnutrition dans ce coin-là? Moi, je pense que nous sommes encore dans une situation où nous ne sommes pas gouvernés. Parce que les moniteurs agricoles qui étaient au village, là, qui passaient tout le temps pour venir vérifier combien d'hectares tel doit faire, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça produit, et il n'existe plus. Et partout, les gens à l'intérieur, ils vous disent la même chanson toujours. On n'est pas payé, et on n'est pas payé. Il est là 10 ans, 5 ans, il n'a jamais été payé, il ne fait rien. Donc, il n'y a pas une organisation administrative qui puisse, à l'intérieur du pays, nous amener à l'époque de la colonisation où même les champs de ma mère étaient contrôlés par quelqu'un qui venait du territoire ou du secteur. Et on savait combien on produisait dans chaque village, dans chaque secteur. Ça n'existe plus. Alors, je ne sais pas exactement, les gens qui se battent pour conserver le pouvoir, ils veulent faire quoi avec?
Merci beaucoup, Félicien. C'est une question de vision, une question des politiques et des priorités. C'est ce qui manque aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on fait face à cette insécurité alimentaire dans un pays avec autant de millions de kilomètres de terres arables. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Le Katanga a été le grenier agricole. On le sait aujourd'hui, le Katanga importe presque tout, le maïs qui est l'aliment de base. Alors qu'on fait face à ces cas d'insécurité alimentaire urgente même, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour remonter la pente dans le secteur agricole, Maître Sonville?
Monsieur Pierrot, je vous remercie d'abord de m'avoir passé la parole et je saisis cette opportunité pour saluer les millions d'auditeurs de la radio Okapi. Par rapport à la thématique de retenir à l'ordre du jour, moi je dirais que l'alimentation est un problème très délicat pour le peuple congolais. Vous savez, il se pose, le Congo c'est comme un continent. Mais Staré avait dit un jour, sans chemin de fer, le Congo ne vaut rien. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a une société de chemin de fer qui n'est pas active, qui n'est pas subventionnée par l'État congolais. Les rails sont vétustes, on nous importe des voitures qui sont vétustes, qu'on ne sait même pas renvoyer en Afrique du Sud, là où on les a prises, puisqu'il n'y a plus de place, c'était déjà mis de côté, déclassé, mais on les amène ici au niveau de la SNCC à Lubumbashi, des locomotives qui ne savent pas fonctionner. C'est un problème, puisque jadis, quand on était à la gare, on voyait les rames et des rames en provenance de l'Est, en provenance du Lolo, avec les sacs de manioc, avec l'huile de palme, mais pour le moment, ça n'existe plus. Et l'état de l'abri des routes de dessert agricole est aussi, c'est aussi un impact en ce qui concerne l'alimentation. Au-delà de ça, M. Pierrot, moi je te dirais ceci. Il y a aussi le problème d'insécurité qui se manifeste à travers la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a autant de déplacés internes. Or, lorsqu'il y a des grèves, lorsqu'il y a des guerres partout, la population ne sait plus s'adonner aux activités champêtres. C'est-à-dire que c'est une question qui est transversale, qui concerne le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur, et autant de ministères, même quatre ministères. Alors, nous estimons qu'au Congo, on n'a pas un État, on a un système d'enrichissement individuel, puisque ceux-là qui sont au pouvoir. Là, nous venons de suivre sur votre chaîne, là, il y a deux, trois jours, les cris d'alarme des ONG par rapport aux déplacés du Kassai, par rapport aux déplacés d'un Mpweto, qui ne sont pas assistés, qui sont en train de croupir dans une misère très profonde dans ce qui concerne l'alimentation. Mais l'État se désintéresse, même pas de réponse. On est ces ONG s'adresse aux organismes internationaux, en ce qui concerne les domaines d'alimentation. Mais où est l'État congolais? Maintenant, on s'adresse au PNUD, on s'adresse à l'UNICEF, tout ça. Mais où est l'État congolais? Nous estimons que dans ces domaines d'alimentation, l'État est tout à fait démissionnaire.
Alors, le problème aujourd'hui, voilà. Le problème aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Maître Sonville, c'est de voir la responsabilité de l'État engagé dans ce domaine de la sécurité alimentaire, en commençant par un programme cohérent. Professeur Ignace Ndala le disait depuis le début de l'émission, il faut un programme cohérent aujourd'hui sur la relance de l'agriculture. Mais vous avez quand même soulevé une question très importante, Maître Sonville. c'est la question, elle est transversale. C'est pas seulement le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la Défense, la Sécurité, c'est l'économie. Voilà autant. Mais si on aurait aimé avoir un plan stratégique dans le domaine de l'agriculture, il y a eu plusieurs initiatives que nous avions d'ailleurs débattues il y a quelques temps dans Parole aux auditeurs, et qui malheureusement n'ont pas pu porter les fruits. Tout à l'heure, professeur Ignace évoquait le projet Bukangalonzo, le résultat que cela pouvait avoir ici à Kinshasa, et voire même à travers le pays. Voilà autant de préoccupations, mais rappelons, parce que vous avez parlé de l'insécurité, que près de 1,4 million de personnes ont été forcées de quitter leur maison l'année dernière. On se rappelle bien la situation du Kasaï. Il y a aussi l'Est du pays, et dans cette configuration, ça devient très difficile aujourd'hui d'investir dans ces zones, dans l'agriculture. Et même ces personnes sont en grand danger urgent de pouvoir recevoir de l'aide humanitaire parce qu'ils sont menacés par la malnutrition. Ernest, vous êtes à Matadi, vous avez suivi les uns et les autres. Et comme le disait tout à l'heure Félicien, on estime plus que le pouvoir ont été la volonté politique a été plus tournée dans le secteur minier. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. On va être tourné dans le secteur minier, mais on sera aussi obligé à tout moment de pouvoir recourir à l'extérieur pour se nourrir, alors que dans le Congo central où vous êtes, on peut produire autant et ravitailler Kinshasa. Qu'est-ce qui doit être fait pour que cette question de l'insécurité alimentaire devienne une priorité aujourd'hui dans notre pays, Ernest? Allô, Ernest, oui, vous avez des gens qui discutent autour de vous. Je vous posais la question de savoir si qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour que la situation de l'insécurité alimentaire soit considérée comme une priorité, Ernest. Voilà, on a des petits soucis entre Ernest, ingénieur, Valérie aussi, qui est apparemment en train de discuter avec les gens tout autour de lui. Alors, nous avons Blaise Clément Moukadi qui dit ceci: il n'y a pas d'avancée, rien n'a changé. Ici, dans la province de l'Omami, la crise a beaucoup dominé, surtout avec de ce qui est arrivé, les conflits. L'insécurité, Ismaël Mpoui qui est à Lubumbashi, la crise alimentaire existe en RDC parce que le pays ne produit pas, plutôt que la production existe à l'intérieur, alors les voies d'acheminement vers les centres villes posent problème. Alain Chitegné estime, lui, qu'à Kananga, une mesure de maïs aujourd'hui coûte 2000 francs congolais. Alors, dans ces conditions, c'est très difficile que la population qui n'a pas assez de moyens puisse faire face à la sécurité alimentaire. Je crois cette fois-ci, c'est l'ingénieur Valérie qui est ici à Kinshasa avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Ok, merci bien. Mon indignation n'est pas forte, mais elle est très forte quand je vois deux éléments dans l'ensemble. Le premier élément, c'est quoi? C'est que nous sommes un pays à vocation agricole parce que nous avons suffisamment de superficie des terres arables. Le deuxième élément, c'est que les statistiques ont démontré que la République démocratique du Congo peut nourrir les deux tiers de la population mondiale. Imaginez-vous, à travers ces deux éléments, si aujourd'hui nous devons parler de l'insécurité alimentaire, cela signifie tout simplement que il y a absence de la volonté politique, absence d'abord d'une politique agricole. D'une politique agricole au niveau d'abord de la production agricole et ensuite de la transformation des produits agricoles. Ce n'est pas un pays comme celui-ci qui peut être en insécurité. Et le deuxième élément qui est à la base de l'insécurité, c'est quoi? C'est la faible rémunération des Congolais. D'autant plus que même si on produisait, mais avec quoi on va acheter? Pour acheter, pour s'en procurer, il faut avoir de l'argent. Mais quand les gens travaillent et qu'ils sont soit non payés, ou quand ils sont payés, ils sont sous-payés, tout cela, ça bloque la machine. Je vous donne quelques exemples. On a adopté dernièrement la politique de la distribution des tracteurs agricoles au niveau des provinces. Allez un peu partout en province. Ce sont des tracteurs que vous trouverez dans les maisons, dans les parcelles, si vous voulez bien, des députés provinciaux, des ministres provinciaux. Qu'est-ce qu'un ministre provincial, fils de l'agriculture, a à voir avec un tracteur si lui-même n'est pas agriculteur, s'il n'a aucun terrain? J'en ai vu un peu partout à l'intérieur. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc, c'est ça le problème. On a échoué même cette politique-là. Au lieu de planifier les choses, on ne planifie pas. On nous a parlé dernièrement des industries de transformation comme Bukangalonzo. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'était du boom. on doit éviter de faire des programmes pour impressionner. On doit initier des programmes pour résoudre un problème dans les concerts de solutions qui sont attendues pour le développement du peuple congolais et non pas pour impressionner les gens. Dernièrement, on a parlé encore d'un autre truc de transformation au Maniema Kipaka. Depuis qu'on en a parlé, on en est où? C'est encore de l'impression pour impressionner les Maniémiens afin de leur faire voir que nous sommes avec vous, voici la politique. Mais en réalité, les Maniémiens n'ont jamais vu ce parc agro-industriel, il n'y en a plus. Ça s'est arrêté seulement au niveau des déclarations. Je crois que les politiques doivent apprendre à résoudre les problèmes plutôt qu'à déplacer les problèmes. Et il faut une politique de rémunération, une politique de distribution des revenus, la bonne gouvernance, une planification, que les politiques soient écartées de la technicité. Ce n'est pas parce qu'on est dans les institutions provinciales qu'on a droit à bénéficier, disons, à bénéficier de tous les tracteurs et autres. Ce sont des hommes d'affaires, tous ces ministres provinciaux-là et les députés pour la plupart. Ce sont des hommes d'affaires, ce ne sont pas des politiciens.
Merci beaucoup, ingénieur. D'ailleurs, on a eu plusieurs débats où on a essayé d'évoquer cette question des tracteurs. C'était près de 700 tracteurs distribués. D'ailleurs, dans beaucoup de provinces, hein, la question a été posée. On est revenu sur le fait que ces tracteurs ont été soit donnés aux membres du gouvernement provinciaux, assemblées provinciales. Mais en réalité, dans le fait, il est difficile aujourd'hui d'avoir des statistiques fiables, hein, qui détermine le niveau de notre production agricole après la distribution de ces tracteurs. Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Mais vous l'avez dit, le problème va d'abord l'absence de la volonté politique, l'absence de la politique agricole cohérente, mais aussi la faible rémunération qui pose problème aujourd'hui. Tous ces éléments pris dans l'ensemble, c'est ce qui fait que beaucoup de Congolais se retrouvent aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire. Ernest, vous êtes à Matadi, bonjour.
Bonjour, Pierrot, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je crois qu'on a soulevé déjà beaucoup d'éléments que je pensais, mais lorsqu'on devient membre d'une équipe gouvernementale, ou vous êtes sélectionné ministre, vous voulez être candidat président de la République, il faut une vision globale. Telle que nous avons la carte minéralogique de la République, de telle manière nous avons la carte scolaire, de la même manière nous avons la carte agricole. Et on doit savoir, pour investir dans l'agriculture, dans quel coin où nous allons produire, où nous allons planter pour produire sans trop de pertes. Et lorsque nous avons produit, comment acheminer cette production vers le milieu de consommation? Le niveau de vie dont mon professeur vient de parler, le salaire par exemple, lorsque nous produisons à une grande quantité, nous transformons cela, le prix va baisser et les gens auront à manger à bobo sans pourtant avoir des critères. Donc, lorsque nous n'avons pas des gens qui ont la vision politique, la vision sur l'agriculture, et nous nous concentrons seulement sur les minéraux, sur le commerce, et dans ces conditions-là, on vient gouverneur, on vient ministre, on devient président de la République sans vision, sans pourtant savoir que l'élément qui fait la politique nationale, l'élément fondamental, c'est la nourriture et c'est l'agriculture. Personne ne mange les minéraux, personne ne mange les diamants ou les cuivres, ou c'est le manioc, le maïs, le soja est toujours pour produire. Or, nous regardons que 75% de la population congolaise vit et fait des petites agricultures. Mais il suffit de moderniser cela, de changer le rythme de production et de donner la vie à l'agriculture. Je crois que les gens vont oublier les minéraux, ils vont oublier les diamants, ils vont oublier les circonstances de la politique. Ils vont se diriger vers les investissements liés à l'agriculture. Et dans ces conditions, je crois qu'on ne peut créer des guerres pour affamer encore des populations qui sont déjà affamées depuis toujours. Donc moi je pense, si je prends le cas de notre province ici, à Mbandongo où nous avons une grande production, vous arrivez au marché de Mbandongo, vous avez tout, les bio, les carottes, les maïs, je ne sais pas, les tomates, pommes, ainsi de suite, il y en a à gogo. Mais regardez le niveau de revenus de ces producteurs, de ces mamans qui travaillent, dans quel état ils travaillent, dans quelles conditions. C'est ce qui fait mal. Nous avons des gens qui n'ont pas la vision agricole, qui viennent s'amuser pour faire de la politique et devenir exactement des commerçants, investir à importer. Regardez les poissons. Nous sommes un pays exposé à consommer les poissons qui viennent de très loin. La viande de très loin. Nous avons la possibilité de faire des pêches chez nous. Il semble que les rats vont bouger les plus poissons du monde. Mais est-ce qu'on voit ces poissons? Ce sont des poissons qui vieillissent, qui naissent, grandissent et meurent des soucis. Parce que nous sommes embêtés par les pêcheurs. Meurent des vieillissements dans les eaux.
les terres arables pour les vaches. Il y en a, mais qu'est-ce qu'on fait?
Alors, vous l'avez dit que le problème, c'est l'absence de cette vision globale, Ernest. Mais quand vous avez évoqué tout à l'heure la carte agricole, rappelons que si vous regardez la monographie de chaque province du temps des 11 provinces après le DCRP, que ce soit les DCRP 1, les DCRP 2, vous verrez que tout est établi clairement dans ces documents. C'était les documents bien élaborés où on montrait chaque province avec ses potentialités agricoles, comment on peut y investir. Le travail des DCRP 1, DCRP 2, malheureusement, on connaît comment cela s'est terminé. Mais les monographies de toutes les provinces ont les données fiables, à partir desquelles on pouvait aujourd'hui investir autant d'argent dans le secteur des productions agricoles, que ce soit au niveau de la pêche, et permettre à ces Congolais de faire face à cette question de l'insécurité alimentaire. 081-890-4969-09-97-06-4969, ce sont nos deux numéros pour intervenir en direct.
Un jour, une histoire. Un magazine sur l'histoire du Congo. Revivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez les personnages et acteurs de notre histoire ainsi que leur rôle. Un jour, une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez Kéline Kouté et toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion, le dimanche à 20h30, le mercredi à 14h15.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Franck Kalongo sur la page Facebook, il nous écrit des Lusaka en Zambie. Quand on quitte Lubumbashi après avoir dépassé Kashamata, il y a un grand champ appartenant à l'actuel roi de appartenant. Voilà ce qu'il a voulu écrire. Il y a un grand champ appartenant au pouvoir public, mais les maïs cultivés dans ces pays n'ont jamais été vendus à RDC, c'est vendu aux brasseries. Hein, et comment voulez-vous qu'on ne puisse pas faire face à l'insécurité alimentaire? Maestro Kitenge, pour lui, il estime que beaucoup d'entre nous à RDC en souffrent. Il faut faire aujourd'hui que les gens puissent très bien manger, mais non seulement les gens mangent mal, mais les gens mangent aussi en fonction de ce qui est disponible. Papi Kassemon, qui est ici à Kinshasa, explique que la situation ne peut pas s'améliorer, mais davantage, elle ne fait que s'empirer pour des diverses raisons. La crise sociopolitique, l'importation qui est devenue la règle, l'exportation fait l'exception, l'exode rural occasionné par l'archaïsme des conditions de vie dans les campagnes, l'absence des politiques et de l'éducation alimentaire, autant des questions qu'il faut considérer comme priorité aujourd'hui si on doit faire face à l'insécurité alimentaire. John, vous êtes à Iziro. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, cher Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute, John. John, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, parce que là, on a des petits soucis pour vous entendre. Apparemment, la ligne risque de s'ébrouiller. Pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu tout en intervenant, John?
Ok, oui, ça va. Je me déplace.
Oui, allez-y, continuez votre intervention.
Oui, je disais que le problème de l'alimentation de l'agriculture au Congo, vraiment, ça va de mal au pire. Et à l'époque du gouvernement, un projet ambitieux de parc de Bukangalonzo qui a coûté énormément au gouvernement congolais. Alors, vous savez que ce projet était quand même bien parce que ça devrait alimenter la ville de Kinshasa et ses environs. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui n'a pas.
John, on ne sera pas allé plus loin parce que là, on a des petits soucis avec votre ligne téléphonique. Vous avez évoqué les cas du projet Bukangalonzo. Vous avez dit que ça a coûté beaucoup d'argent au gouvernement congolais. On sait qu'il y a eu la polémique autour des 50, des 60, des 90 millions de dollars utilisés. Mais pour vous, il n'y a pas eu de résultats parce que Kinshasa n'a pas résolu le problème de l'accès à la nourriture ni les environs de Kinshasa. Quand le projet a été inauguré, c'était aussi, on pouvait dupliquer ce genre de projet à travers le pays, mais cela n'a n'a pas été fait. Merci beaucoup, John. Dommage pour la ligne téléphonique. Maître Adrien, vous êtes à Kananga au Kasaï Central. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Pierrot et la Mengi. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Oui, quand on voit dans le rapport de, que ce soit FAO, que ce soit le programme alimentaire mondial, la question de l'insécurité au Kasaï est revenue, quand on sait déjà que la province, l'espace Kasaï avait déjà des problèmes de production agricole pour certains territoires et d'autres villes, et ajouter à cela l'insécurité, ça a vraiment aggravé encore la situation de l'insécurité alimentaire. Comment on peut arriver aujourd'hui à faire face à ces situations?
Oui, merci Pierrot de la parole que vous m'accordez. Je pense que les différents rapports auxquels vous faites allusion ont fait vraiment du beau travail, parce que depuis très longtemps, le Kasaï est considéré parmi le grenier agricole dans notre pays. Mais le Kasaï avait souffert à un certain moment une politique d'exclusion, ce qui veut dire que dans tous les projets du gouvernement central, le Kasaï ne se retrouvait pas. Vous pouvez vous rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, donc les principales routes au niveau du Kasaï sont dans des états vraiment piteux, des états donc d'endommagement terrible. Et pendant que ailleurs il y avait des projets de 22 kilomètres par an, mais le Kasaï n'avait jamais bénéficié de tout ça. Deuxièmement, parce que lorsque nous lisons la Constitution, vous allez vous rendre compte que l'agriculture fait partie du domaine concurrent entre le pouvoir central et la province. Et s'il y a l'indifférence au niveau du gouvernement central, et malheureusement, les différents gouvernements provinciaux que nous avions connus dans notre province étaient aussi caractérisés par cette même indifférence. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes à Kananga, mais Kananga ne produit pas. Kananga, c'est le chef-lieu. Il y a certains territoires considérés comme les greniers, oui, pour notre ville. Et c'est notamment Ilebo, Mweka, Luisa, ainsi de suite. Mais ces routes-là des dessertes agricoles sont impraticables. Au jour d'aujourd'hui, la donc mesurette de maïs qui s'est négociée autrefois entre 700 et 900 francs, aujourd'hui, cette mesurette-là est à 2000 francs, présentement, lorsque je vous parle. Or, lorsque vous posez la question à nos amis qui sont à Ilebo, qui sont à Mweka, cette même mesurette-là se négocie entre 300 et 500 francs. Donc là, tout le monde ne comprend rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de route et c'est bien là pourrisse par moment dans certains villages. Deuxièmement, vous allez vous rendre compte que lorsque vous posez la question aux commerçants qui descendent vers Ilebo, Mweka, ils vous disent que ils sont soumis donc à une taxe donc d'évacuation. Cette taxe-là est doublement payée. Parce que Ilebo fait partie maintenant de la province du Kasaï, le gouvernement du Kasaï est obligé de percevoir quelque chose, et arrivé à Kananga, le gouvernement provincial du Kasaï central perçoit la même taxe, parce que aucun gouvernement ne peut accepter de perdre au détriment de l'autre. Nous avions plaidé pour qu'on voie comment est-ce que les deux gouvernements peuvent se mettre d'accord pour alléger la tâche aux commerçants, et c'est difficile, chacune des provinces reste stationnée sur sa position, et ce qui décourage maintenant les commerçants, ils ont abandonné, et la crise frappe maintenant la population. Troisièmement, Pierrot, j'ai toujours dit, les jours où notre gouvernement, que ce soit le gouvernement central ou provincial, comprendront qu'il faut faire de l'agriculture une priorité des priorités, donc ces jours-là, nous allons sortir vraiment de cette situation alimentaire. Parce que vous l'aviez invoqué d'entrée de jeu, pendant la Deuxième République, la République démocratique du Congo, du Zaïre à l'époque, était citée parmi les cinq premier pays producteur de l'huile de palme, producteur de maïs, producteur de cacao, producteur de café. Mais pourquoi? Parce que l'agriculture était considérée comme une priorité. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que non, il faut compter sur le minerai. Lorsque le minerai donc chute, au niveau international, et c'est comme ça que nous sommes en train de vivre des situations catastrophiques.
Merci.
Mais maintenant, particulièrement à la province du Kasaï central, au départ, qui était d'abord pembénisé, comme les gens disent, et aujourd'hui, avec la crise des tristes mémoires que la province a connue, c'est devenu pire parce que l'USA, considéré comme un territoire aussi important, mais ne parvient plus à produire à cause de l'insécurité. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nos amis partenaires du pays qui viennent pour secourir la situation, parce que vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur le deuxième rapport de la Lisadel, vous allez vous rendre compte que c'est un délaissement total. Certains partenaires, par exemple la FAO qui vient pour secourir la population, la FAO utilise donc les organisations importées, donc spécialisées en la matière. Or, lorsque ces organisations-là arrivent sur terrain, sont butées aux difficultés parce qu'ils ne connaissent pas les coins. Or, au lieu d'utiliser les organisations locales qui connaissent que la difficulté est à tel endroit, il faut commencer par ici, terminer par là, mais on vient avec les zones G importées, et la difficulté c'est quoi? On prend le miettes, on donne à la population paupérisée d'abord, et
merci.
Puis les restes, c'est l'opération retour.
Merci donc, beaucoup, Maître Adrien. Maître Adrien, je crois que le question, il y a beaucoup d'éléments à évoquer autour de cette situation d'insécurité alimentaire, surtout, vous avez dressé ces tableaux pour le Kasaï. Rappelons quand même que la difficulté aujourd'hui, c'est que vous pouvez produire, que ce soit à Ilebo, que ce soit à Mweka, à Kakenge, partout ailleurs, mais avec le chemin de fer, ça pose un certain problème pour pouvoir évacuer la nourriture dans le centre comme Kananga. Mais il y a aussi, c'est les taxes qu'il faut payer dès lors que Mweka et Ilebo, c'est dans la province du Kasaï, et que les commerçants font le tour entre les deux provinces jusqu'au Kasaï central, et il faut payer la taxe. Mais au-delà de tout, il y a l'insécurité. Cela veut dire que on ne peut résoudre cette question, comme vous l'avez dit, Maître Adrien, que quand on va considérer l'agriculture comme priorité des priorités, pas dans l'intention ni dans le slogan, mais dans le fait, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut arriver à faire face à l'insécurité alimentaire. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Merci de nous avoir rejoints à ce niveau du débat. Bonjour.
Bonjour au Pierrot également. Nous disons bonjour à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre pendant ce moment. Pierrot, comme les autres intervenants venaient de dire, la RDC est en train de souffrir de l'insécurité alimentaire chronique et même sévère. Pourquoi? Parce que les autorités que nous avons aujourd'hui ne considèrent pas les secteurs de l'agriculture comme étant leur priorité. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand vous commencez aujourd'hui les problèmes des champs, ça ne va pas vous donner tout le fruit aujourd'hui même. Et ils sont parés au but baissé. Et donc, l'argent qui vient vite, ils prennent parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mettre encore et le temps qu'ils mettront au pouvoir. Vous voyez le vrai problème qui est là. C'est exactement ça. Je me pose la question, Pierrot, que tout le monde connaît, que le développement de tout pays, je commence par la Chine. La Chine, nous avons tous étudié la réforme agraire. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Pierrot, les minéraux vont terminer, mais l'agriculture restera, au fait, pour toujours. Nous avons 75% de terres arables. Pourquoi on ne peut pas concevoir une politique dans ce sens? Parce que quand on nous parle au moins des sociales, les sociales c'est quoi? Les sociales c'est l'agriculture, c'est la manger, c'est le manger. L'agriculture est un vrai problème social. Mais quand on nous dit que nous voulons améliorer les sociales, mais je ne comprends pas. Hein, sur le plan sémantique, là, donc quand nous voulons améliorer les sociales, mais de quel moyen? C'est difficile. Et il faut commencer par ça. Je regrette beaucoup plus les députés que nous avons, Pierrot, s'ils ne peuvent pas initier des lois à l'agrès et les soutenir, les défendre jusqu'à ce que nous voyons le vrai budget qu'on a mis en place pour les secteurs. Regardez quand le président Mouvet Laurent Désiré Kabila est venu. Il est venu avec les services nationaux. Ça, avec l'idée d'implanter ces services partout en RDC. Nous avons vu les indices. Et pourquoi est-ce qu'on ne devait pas poursuivre ça? On nous a trompé ici qu'il y a eu des tracteurs. Les tracteurs, ce sont les politiciens qui étaient distribués tout ça. Mais on nous dit aujourd'hui Bukangalonzo, mais les effets de Bukangalonzo, c'est ressenti où, Pierrot? Qui ressent ça si ce ne sont pas seulement
et ceux qui sont au pouvoir, qui goûtent au mets de Bukangalonzo. Sinon, Bukangalonzo, quand vous allez à Mweka, à Tchikapa, là où, aujourd'hui à Kananga, à Mbujimayi, là où un saut de Paris nous coûte 2000 francs. Ce n'est pas possible, ils ne connaissent pas tout ça. L'agriculture, c'est un vrai problème, un vrai problème. Aujourd'hui, Pierrot, nous avons un problème avec les politiciens. Ils se sont accaparés, ils ont pris des hectares et des hectares de portions de terres en RDC pour dire que nous voulons y ériger des fermes. Jamais nous ne voyons pas de fermes de ces politiciens. S'il y a des fermes qui nous disent qu'est-ce que ces fermes ont produit pour le bien-être de ces Congolais qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Mmh. C'est simple, Pierrot. Nous voulons tout simplement que le gouvernement qui va venir avec des cadres responsables donne des intrants à ces paysans, à tout Congolais qui veut s'adonner dans ces secteurs-là. On leur donne des intrants, des moyens, et ils cultivent, et l'État vient acheter les mêmes produits. Et ces produits qui seront achetés par l'État, l'État va acheter ces produits-là, ça va vite nous avancer, et nous allons au-delà des classes moyennes, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui.
Merci beaucoup, merci Pacifique. Voilà, merci beaucoup Pacifique. Merci Pacifique. Vous avez fustigé comme les autres l'absence d'une politique agricole claire, efficace. Ça, c'est un fait. Mais quand on voit des projets qui ont été initiés d'une manière sporadique, rappelons quand même le projet tracteur, c'était plus de 700 tracteurs distribués à travers le pays. Nous avons eu plusieurs fois tenté d'avoir des résultats, des chiffres par rapport à la production agricole après la distribution de ces tracteurs. Ça a été très difficile. Même au niveau du ministère de l'Agriculture, on a eu des émissions autour de ça. Et vous avez évoqué le Bukangalonzo, ces genres de projets, mais au-delà de tout, il y a ces terres qui sont confisquées par les politiques comme de fermes dans lesquelles il n'y a ni arbres, ni bêtes, ni champs en dehors des arbres naturels qu'on a retrouvés quand on a pu se procurer la ferme. Voilà autant de questions sur lesquelles il faut se pencher avec lucidité, et c'est comme ça qu'on peut arriver vraiment à faire face à cette question des sécurités alimentaires. On reste à Lubumbashi avec vous, Placide. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup. Vous savez, lorsque nous avons demandé et obtenu l'indépendance, quand Lumumba formait son gouvernement, lui, il y avait des principes. Lorsque Lumumba formait son gouvernement, il a dit, le ministère de l'agriculture donne à Kalonji parce qu'il avait fait l'école Kadilak au Kassai Kamponde. Il a dit à Tshombe, moi je te nomme comme ministre de commerce extérieur parce que vous êtes commerçant. Alors chaque ministre qu'on désignait par Lumumba, il savait ce qu'il devait faire. Actuellement, avec votre génération, on nomme des ministres pour les nommer. Ce n'est pas la politique de... Vous dites qu'il manque de volonté politique. Non, c'est l'ignorance. Vous ne devez pas nommer ministre, je ne sais pas ce qu'ils doivent faire. Actuellement, quand nous vivons à Lubumbashi ici, tout le monde qui passe à Lubumbashi, tout ce qu'on raconte, j'entends toujours maître de mon ville qui vous parle de Lubumbashi. Vous savez ce que se passe à Lubumbashi? On cultivait des tomates à Mulungu ici. On cultivait des pommes de terre à Fungurume et à Luambo. Maintenant, à Lubumbashi, tout ce que nous mangeons vient de la Zambie. Même des aubergines, même des tomates. Vous savez combien coûte une tomate fraîche à Lubumbashi? 400 francs. Une tomate qui coûte moins cher à Lubumbashi, c'est 250. Les aubergines, les moulenda ici, tout vient de la Zambie. Mais tous ces ministres qui passent ici, on parle que de... Le boisson alcoolisé, on parle que des ciments, mais qu'est-ce qu'on mange habituellement à Lubumbashi? Tout coûte trop cher, mais ça vient de la Zambie. Mais il faut qu'on revienne à un système de chemin de fer. Léon Lepordet avait dit qu'on bosse un chemin de fer, c'est foutu. On a inauguré ici 17 ou 20 locomotives. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces locomotives? Moi, quand j'ai travaillé dans le chemin de fer ici, j'ai fait 45 ans 52 ans de service effectif dans les chemins de fer ici. Mais le, quand vous avez 17 locomotives, ou 30, ou les, le président de la République arrive, on fait l'inauguration, on fait tout ça, deux semaines après, vous n'avez pas ces locomotives. Vous dites qu'il y a vraiment des gens qui savent ce qu'ils doivent faire. Tout est à revoir, votre génération. Nous avons des larmes aux yeux, ça fait pitié. On ne mange pas ici. Un oignon coûte 100 francs, un oignon. Tout vient de la Zambie. Ne vous parlez d'abord de tout ce qu'on parle là. Tout vient de la Zambie ici. Mm-hmm. On me dit le contraire. On vit comment, que ce soit les députés, que ce soit les ministres, quand vous avez des gens devant vous, ils nous donnent à manger aux joueurs. Ils lui donnent à voir aux joueurs. Ils vous montrent à la télévision qu'ils ont fourni des papiers hygiéniques à manger aux joueurs. Est-ce que vous raisonnez que ces gens-là savent diriger un pays de votre génération?
Voilà, merci beaucoup, Papa Placide. Voilà. Merci, Papa Placide. Je crois que c'est la génération qui a détruit. Vous avez utilisé les termes ignorance. On s'était réservé d'ailleurs en début d'émission pour dire est-ce que le problème aujourd'hui c'est un problème d'ignorance, un problème des priorités. Et vous l'avez dit, c'est la génération de l'ignorance. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui faire les choix de savoir qui fait quoi, et qui a la capacité de faire quoi dans le domaine de l'agriculture. Et ces cris que vous avez lancés, on le voit bien, la province comme celle du Katanga dans la globalité qui doit dépendre de la Zambie qui a presque la même bande de terre, le même sol pour vivre avec la tomate, l'oignon. Et c'est comme ça. Et c'est à cause de ça aujourd'hui que les organisations internationales lancent ces cris pour que ces 7,7 millions de Congolais, si on ne fait pas attention, ils vont disparaître à cause de l'insécurité alimentaire. Et c'est là où se trouve la responsabilité de politique aujourd'hui. Sylvain, merci de nous avoir rejoints. D'ailleurs, vous avez suivi les cris de Papa Placide avec ses témoignages à Lubumbashi, Sylvain. Alors, qu'est-ce qui doit être fait concrètement en temps vers les dernières minutes de l'émission? Oui, Sylvain, vous êtes avec nous? Voilà, Sylvain est assez distrait sur sa ligne. On pourra peut-être les récupérer le temps que Maître Ngandou, qui nous appelle d'Idiofa, puisse intervenir. Maître, bonjour.
Bonjour, Piero.
Et on vous écoute.
Bon, disons, mon intervention aura deux volets. Premièrement, je veux parler de la population qui est concernée. Et puis, je parlerai aussi de bailleurs de fonds, hein, surtout des projets qui sont financés au niveau international. Vous savez, la population doit avoir en tête l'idée que lorsqu'on produit, c'est d'abord pour se nourrir dignement, mais aussi vendre et afin de subvenir avec l'argent qu'on peut gagner à d'autres besoins, hein, de la vie moderne. Mais nous avons pu constater qu'il y a des ces Congolais-là qui se lancent sur cette voie-là, mais ces Congolais-là priorisent plus l'aspect vente des choses. Ils ne prennent pas en compte l'aspect de leur santé. Parce que vous comprenez, par exemple, moi je suis à Idiofa, hein. Pour le moment je vois des mamans, hein, des femmes qui viennent, qui vous vendent des légumes, ils vous vendent des trucs pour en contrepartie acheter un poisson, un morceau de poisson de mer salée, qui n'est même pas préparé dans les bonnes conditions, ils mangent ça comme ça, et après quoi on va crier sur la malnutrition. Donc ces gens-là ne mangent même pas des légumes qu'ils même produisent. Donc il y a un problème à ce niveau-là de l'éducation alimentaire. Donc la population doit manger équilibré, hein, et puis savoir. Parce que vous savez, chez nous on ne mange même pas des légumes, hein. Les gens ont tendance à vouloir manger la viande qui est rare. Moi je pense qu'il faut aussi que la politique soit accentuée dans ce sens-là, de produire plus la viande, hein, la viande, les poissons, des trucs comme ça. Parce que les légumes on en a, mais on n'en mange pas. Et puis chercher aussi à instruire la population dans le sens de produire d'abord pour nourrir sa propre famille dignement, de manière équilibrée, et puis vendre les restes. Bon, il y a un problème aussi au niveau des projets. Vous savez, les projets qui sont financés par les organismes internationaux, à mon avis, ne s'adaptent pas. Ils ne s'adaptent pas. Pourquoi? Parce que, sans vous mentir, aujourd'hui vous parlez des États, hein, des États qui sont prospères dans ce domaine-là, mais sans vous mentir, notre pays aussi est pris en compte, est financé. Il y a plusieurs projets qu'on a financés dans ce sens-là pour combattre ou soit prévenir. Mais quel est le résultat sur le terrain? Moi, je pense que ce sont des produits qui ne s'adaptent pas. Le problème, c'est le premier se situe au niveau, à mon avis, des stratégies. Vous savez, nos mamans savent planter, ils savent des saisons, ils ont naturellement cette culture, ils savent qu'ils produisent même aussi. Mais la plupart des projets donnent de l'importance à l'aspect formation des agriculteurs, achat des matériaux pour les bureaux, des trucs comme ça, et vous voyez, tout argent entre dans ce sens-là, et même si pas l'accompagner.
Quand vous le dites, maître Ngandou, vous estimez qu'il y a, dans les projets, on a plusieurs fois, ça a été fustigé, la grande partie d'argent consommé dans l'étude des faisabilités des projets, mais vous estimez qu'il y a aussi un problème comportemental. Il faut sensibiliser la population à ceux qui produisent même le peu, qu'ils apprennent d'abord à les consommer. Ça, c'est un problème de choix alimentaire. S'il faut aussi faire un travail sur ces terrains-là, mais adapter aussi les projets qui sont financés par les organismes internationaux pour que ces projets répondent réellement aux besoins de chaque coin et de chaque milieu. Joseph, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour Pierrot et la Légie, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Joseph.
Pierrot, tout à l'heure, vous veniez d'écouter la vieille génération. Je crois que ce débat, nous l'avons débattu une fois, et je t'ai dit, ce n'est pas la production alimentaire qui manque, par exemple, dans ma province. L'autre fois, je t'ai dit, j'ai fait la route Kalemi, Lubumbashi, à bord d'un train. Tu peux t'imaginer, Lubumbashi-Kalemi, c'est pratiquement 1200 ou 1000 km selon les kilométrages. Mais j'ai fait 14 jours sur cette tronçon, 14 jours avec le train. Alors, regarde le spectacle désolant que j'ai vu. Dans mon parcours, je remarque que les gens cultivent et assez pour la population. Mais le moyen de transport, mon cher ami, pose problème. J'ai acheté le banane, qui chez nous on appelle mandizi, mais dans le vrai swahili on appelle kitika. J'ai acheté le banane de 200 francs, mais j'ai échoué de terminer ces bananes. Et quand les trains ont commencé à sonner, les villageois nous disent, bon, les citrons ils commencent à nous les jeter, les oranges, le banane, le vrai banane. Et ils le vous le donnent parce qu'ils vous disent, si nous restons avec ces aliments, ils vont pourrir. Effectivement, ils vont pourrir parce que les routes d'évacuation n'y sont pas. Ce n'est pas mal d'avoir que l'économie soit tenue par les mines, mais la population, comme les autres intervenants l'ont dit, c'est le ventre. Et le ventre, ce ne sont pas les mines qui entrent dans les ventres. Pourquoi il n'y a pas la politique des routes d'évacuation de produits? On connaît, pour nourrir Lubumbashi, l'aliment va quitter dans tel secteur. On se demande quels sont les voies d'évacuation qui acheminent la nourriture vers le lieu de consommation. Et ça, il faut de la magie. Ah, c'est triste, ça. C'est triste et c'est désolant, hein.
Merci. Merci beaucoup, Joseph, vous l'avez dit. D'ailleurs, il y a beaucoup de provinces, on l'a vu, qu'il y a des endroits, même quand vous regardez dans certains territoires, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, il y a une forte production agricole, mais le problème de l'insécurité, les routes d'évacuation, quand on regarde la quantité de nourriture, par exemple, à Goma, et les prix de cette même nourriture à Kinshasa, le problème des transports, voilà autant de questions qui doivent être résolues, mais ça ne peut être résolu, comme les uns et les autres l'ont dit, qui est dans l'élaboration d'une politique clair, global, et de savoir qui fait quoi, à quel niveau on fait quoi, et on peut bien évaluer cela en termes de statistiques, de chiffres, hein, comme le disait tout à l'heure la vieille génération, vous avez évoqué Papa Placide, et c'est à ce niveau-là qu'on peut faire le travail avec précision et qu'on peut résoudre toutes ces questions d'insécurité alimentaire. Merci, vous avez été très nombreux à commenter ces sujets et à débattre autour de cette question. On pourra se retrouver pour approfondir encore les débats dans le prochain numéro de Parole aux auditeurs. Merci à Polydor Basunga qui a mis en onde ce magazine réalisé et par Nico Kalamba qui était aussi au standard, et Pierrot Elameji vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se retrouve le lundi pour un autre numéro de Parole aux auditeurs, mais en attendant l'émission est sur www.radiocapi.net. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.